tu me frappes quand mes mains sont attachées, alors je te parlerai pas.
Ah, la vie est pas toujours juste, mon pote. Tu croyais vraiment qu'une fois qu'on aurait coincé, je serais un mec super gentil?
On était un peu homo cliché aujourd'hui, non?
Eh bien, on va inviter les clichés ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de l'Autriche, de Nina Hagen, de ponction lombaire, d'Algérie et même de tyrolienne. Avec Reda Kateb en médecin formidable dans Hippocrate, le film de Thomas Lidley. Lucille Comeau.
Portrait d'un comédien qui a commencé sur la scène paternelle et qui imprime aujourd'hui son intensité au cinéma français et américain.
19h30, c'est la grande rentrée cinéma pour Jean-Marc Lalanne qui met ce soir à son programme non pas un film parce qu'il sait lire, donc ce soir ce sera un livre, Assayas par Assayas. 19h35, plateau autrichien avec Patrick Chia. Le cinéaste retourne une fois de plus en Autriche avec Boys Like Us, le portrait en crise de trois trentenaires gays au pays de Thomas Bernhardt. Benoît Lagan.
L'occasion pour le cinéaste de s'aventurer dans la comédie burlesque et ou de situation pour mieux jouer et déjouer les clichés et faire apparaître le spectre de Nina Hagen.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle avec le tout nouveau journal de la culture de Zoé Sfèze. Bonsoir Zoé.
Bonsoir à tous, bonsoir Laurent.
Et on ouvre tout de suite, comme chaque jour, avec le son du jour.
Et oui, il est tout frais du matin. Fleur Pellerin, nouvelle ministre de la Culture, était sur France Inter pour parler, entre autres, de l'arrivée de Netflix en France. Patrick Cohen lui demande ce qu'elle pense du fait que le géant américain soit domicilié à Amsterdam, ce qui implique qu'il ne paie pas d'impôts en France et qu'il ne finance pas non plus la création. Écoutez ce qu'elle lui répond.
C'est vrai que ça crée une discrimination, ou en tout cas, ça ne met pas tous les acteurs sur le même terrain de jeu. J'entends bien, moi, la préoccupation des autres acteurs, mais c'est une situation qui ne doit pas se régler en vilipendant les sociétés qui font ce choix, puisque c'est un choix de rationalité économique. Ma préoccupation première en tant que ministre de la Culture, c'est bien de faire en sorte que l'ensemble de nos concitoyens aient accès à une offre légale avec un catalogue important de films et de séries. C'est déjà ça, en premier lieu, qui permettra de réduire les pratiques de piratage d'un certain nombre de personnes.
Un choix rationnel qu'il ne faut pas vilipender, traduction de la langue de bois. Pour Fleur Pellerin, eh bien, c'est tout à fait normal que Netflix ait choisi de ne pas jouer le jeu en s'installant en France. Et vraisemblablement, elle ne va pas faire grand-chose pour changer la situation. Première déception donc pour ceux qui misaient sur cette nouvelle ministre pour négocier avec les grands géants du numérique.
Le dossier du jour est consacré au festival Burning Man qui s'achève aujourd'hui dans le désert du Black Rock au Nevada. Je crois que j'étais le seul dans l'équipe à ne pas savoir ce que c'était. Véritable symbole de la contre-culture californienne, le festival serait peut-être dépassé par son succès.
Et oui, Burning Man est né autour d'un feu de camp en 1986 sous l'impulsion de rêveurs héritiers du Flower Power et de la Beat Generation. Le principe, des utopistes du monde entier s'installent pendant une semaine au beau milieu du désert. Ils testent toutes les expériences possibles, musique, réflexion, mais aussi drogue et sexe en tout genre. Mais il y a plusieurs règles et notamment, la première, les festivaliers amènent juste ce dont ils ont besoin. Ils viennent avec des choses à donner, que ce soit du savoir, du matériel. Et à la fin de la semaine, ils doivent tout
démonter. Ça fait rire Lucille Comeau qui pense à autre chose, bien sûr.
Tout donner, on ne va pas revenir là-dessus. Et le but, c'est qu'ils ne laissent aucune trace à la fin de leur passage. Mais cette 28e édition...
C'est-à-dire qu'ils doivent tout nettoyer.
Tout nettoyer et à la fin, on brûle un homme de paille qui a été là pendant une semaine, d'où son nom Burning Man. Alors, cette 28e édition, elle concentre pas mal de critiques. Elle a attiré 70 000 personnes, beaucoup de monde, trop de monde, selon certains. Une festivalière est morte en tombant d'un bus. Mais surtout, le festival aurait perdu son âme, car les hippies des débuts ont été rejoints par les millionnaires de la Silicon Valley. Critique non justifiée pour Arnaud Contreras, qui a réalisé un documentaire sur le festival à l'été 2013. Écoutez-le.
Il n'y a pas d'opposition à Burning Man entre contre-culture et capitalisme. C'est-à-dire que ce n'est pas un festival complètement hippie, ce n'est pas un festival complètement punk. Capitalisme et contre-culture sont complètement mêlés dans Burning Man. Les TED Talks, qui sont des grandes sessions de discussion avec certains des grands entrepreneurs américains, sont présents à Burning Man, mais mélangés avec des inventeurs géniaux, sortis de nulle part. Après, sur les risques à Burning Man, il y a toujours eu des risques, mais par rapport aux nombreux festivals où j'ai pu me rendre, c'est le festival le mieux organisé auquel je me sois rendu.
Mais pour le journaliste américain Nick Bilton, qui connaît lui aussi le festival depuis des années, il estime qu'il a effectivement perdu l'esprit des débuts.
Et oui, car beaucoup des 10 règles d'or ont été bafouées. Les entrepreneurs de la Silicon Valley qui viennent aujourd'hui, eh bien, ils n'ont plus rien à voir avec les Steve Jobs et autres génies du web qui venaient partager leur savoir en toute simplicité, en se mêlant aux fêtards. Maintenant, ils débarquent avec des camping-cars blindés et avec des aides payées, baptisées Sherpa. Ils ne jouent pas du tout le jeu du festival, écoutez-le.
Maintenant, c'est devenu un endroit où des centaines de millionnaires ou de milliardaires de la Silicon Valley viennent pour dépenser de l'argent. L'une des premières règles du Burning Man, c'est que tu ne parles pas de ce que tu fais à l'extérieur du Burning Man. Avant, si tu demandais à quelqu'un quel était son job, on te regardait avec un genre de mépris. Maintenant, c'est l'inverse. C'est parfaitement acceptable d'évoquer le boulot. Alors, je ne dis pas que les gens y viennent pour signer des contrats, mais presque. Donc, je ne dirais pas que le Burning Man est fini, que ce n'est plus ce que c'était, juste cela a changé et que c'est devenu un business.
Alors, ça baise encore quand même ?
Ça baise, je crois que ça baise aussi, mais ça baise et ça fait du business. Alors justement, business ou utopie, le festival de toute façon continue de faire des petits. Maintenant, il y a un Africa Burn en Afrique du Sud, il y a le Nowhere Festival en Espagne et l'année prochaine, les organisateurs californiens se disent prêts à accueillir plus de 100 000 visiteurs dans les déserts du Nevada.
Eh bien, tout de suite, les brèves, Zoé.
Et oui, avec un été noir pour les salles obscures aux États-Unis, le box-office américain a plongé. C'est les recettes les plus basses depuis 17 ans. La faute aux trop nombreux blockbusters et autres suites à rallonge avec Hercule et Expendables 3 qui ont été de véritables bides.
Après Netflix, un autre géant de la vidéo à la demande débarque en France cette
fois. Il s'agit du japonais Rakuten, propriétaire de Price Minister en France. Il va proposer son catalogue en test jusqu'à la fin du mois aux utilisateurs de Price Minister avant de l'ouvrir ensuite au grand public.
Détroit, la ville de Détroit, pourrait hypothéquer ses œuvres d'art pour sortir la tête de l'eau.
Et oui, pour sauver la ville américaine qui a été déclarée en faillite l'été dernier, une compagnie spécialisée dans les prêts garantis par des œuvres d'art, Art Capital, propose d'hypothéquer la collection du Detroit Institute of Art. Affaire à suivre.
Et la dernière du jour ?
Alors c'est l'histoire, une histoire d'amour entre un homme et les fers à repasser. Jean-Pierre
Je
Lenski.
Je ne suis pas sûr que ça me plaît.
Et mais si. Jean-Pierre Lenski, c'est un retraité. Avant, il était responsable d'atelier dans un lycée technique dans le département du Nord. Et ce n'est pas un homme comme les autres, non. Il est pressophile, et oui, cela existe. Depuis des années, il collectionne et bichonne tous les fers à repasser qu'il croise dans les brocantes de France et de Navarre. Et il a même fondé une association.
On dirait une histoire de Jean-Marc, Jean-Marc Lalanne. Il n'a pas d'histoire.
De Benoît Lagan.
De Benoît Lagan de l'année dernière.
Bah écoutez, mais non,
un truc
alors,
invraisemblable.
Son association
n'intéresse que lui et les gens de son pays.
Il y a une exposition, mon ami. Cette association, elle s'appelle Patrimoine, Histoire et Études du Repassage.
Ah, et en fait, on parle. C'est vrai que c'est. Ça y va.
Mais attendez, cet homme, il a quand même accumulé plusieurs milliers de fers à repasser. Dont certains remontent au 3e siècle. Une collection étourdissante qu'il a décidé de partager avec le grand public. Depuis cette semaine, ses plus belles trouvailles sont exposées à l'Office du tourisme de Sebourg, dans le département du Nord, depuis hier donc, et jusqu'au 4 octobre. Alors si vous passez par le Valenciennois, jetez-y un coup d'œil. Peut-être que vous ne verrez plus jamais le repassage de la même façon.
Certains. Est-ce qu'il y a des commentaires de la part de nos invités à ces nouvelles accablantes dont on venait d'être victime, Reda Kateb ? Quelque chose
de faire passer, non, je pense que non. Ça parle tout seul.
Ça parle tout seul, c'est vraiment, il n'y a rien à rajouter.
Mais le musée de Détroit, non, j'ai eu l'occasion de le visiter, c'est un magnifique musée dans lequel il y a une fresque, je ne me souviens plus le nom de l'auteur de cette fresque, mais qui est une partie de l'histoire ouvrière de la ville de Détroit. J'ai pu y voir aussi des Van Gogh dont je n'imaginais pas qu'ils étaient là-bas. Et ce serait dommage qu'elles soient vendues aux enchères. Ouais, c'est un lieu vraiment étonnant, Détroit, entre la décadence et la renaissance de quelque chose.
Ce n'est pas la première fois que des œuvres d'art sont susceptibles d'être rachetées pour une dette. C'est la même chose, je crois, au Portugal, où on a accepté que les miroirs de la collection nationale soient vendus, c'est ça, hein ?
C'est exactement ça. Mais alors là, il ne sait pas tout à fait encore les vendre, c'est les hypothéquer pour au moins permettre à la ville de pouvoir emprunter et d'avoir quelque chose à gager, en fait, tout simplement.
Patrick Chia, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez commenter ?
J'ai juste beaucoup d'affection pour les monomaniaques.
Je peux imaginer. Parfait. Alors, on commence tout de suite.
19-20, le rendez-vous. Rendez-vous. C'est sur France Culture.
Plateau Stéthoscope avec vous, Reda Kateb. La première fois qu'on vous a vu au cinéma, eh bien, c'était en 2009 dans Un prophète de Jacques Audiard. À la télévision, il y a eu Engrenage. Et puis depuis, vous avez tourné dans une vingtaine de films français et américains. Vous défendiez à Cannes cette année pas moins de 3 films, dont Hippocrate de Thomas Lilti, je le prononcerai bien au moins une fois, qui sort aujourd'hui sur les écrans. Lucille.
Alors le film fait le portrait ultra réaliste de 2 internes dans un hôpital français. Il y a Benjamin, qui est joué par Vincent Lacoste, très jeune, fils du patron de l'hôpital, qui voit sa vocation mise à l'épreuve par la dureté du milieu hospitalier. Et puis il y a vous êtes Abdel, un médecin plus âgé, plus expérimenté, mais qui lutte avec son statut de médecin étranger qui vient d'arriver en France. Alors on écoute la bande-annonce remontée par notre réalisateur Thomas Beau.
Dis-moi, je peux avoir une blouse, s'il vous plaît ?
Vous en avez pas une sans tache ?
C'est pas des taches, ça a été lavé, c'est des taches propres.
Là, t'as l'accueil. Derrière, c'est le bureau des internes. C'est chez toi. 10 chambres, 18 patients.
18 ?
Ne vous inquiétez pas, c'est notre meilleur interne.
Attention, je vais piquer.
Vous avez besoin d'aide ?
Non, c'est bon.
Aussi, c'est une ponction lombaire un peu difficile.
C'est con, j'y suis presque.
Non, tu veux pas du tout, là. T'enfonces un peu plus. Voilà.
Ça coule, monsieur, hein.
Tu vois, une ponction lombaire, c'est pas difficile. Il faut pas hésiter à enfoncer un petit peu plus l'aiguille. Il faut que t'entendes un petit craquement. D'accord ? Sinon, tu fais mal au patient et c'est voué à l'échec. Il vous a fait mal, monsieur ?
Ouais, un peu, mais...
Tu vois ?
Tu sais, j'ai remarqué un truc marrant. Si tu demandes à un patient de s'allonger sur le dos, eh ben il s'allonge sur le ventre. Alors que si tu précises pas et que tu dis juste « Bonjour, monsieur, allongez-vous, s'il vous plaît », eh ben le mec s'allonge sur le dos direct.
Et vous buviez combien par jour ?
Ben, les 40.
40 ? Et comment on fait pour boire 40 bières par jour tout en travaillant ?
Je tiens un bar.
Franchement, je suis pas fait pour ce métier, c'est pas possible, quoi.
C'est pas un métier, médecin. Une espèce de malédiction.
Reda Kateb, on vient de vous entendre dire « Docteur, ce n'est pas un métier, c'est une malédiction ». Est-ce que vous diriez la même chose de votre propre métier, celui de comédien ?
Non, absolument pas. Comédien, c'est pas un statut. On est comédien quand on joue. Donc un comédien qui fait une journée, un jour sur un film, ce jour-là, il est comédien. Et un comédien qui fait plein de films, le jour où il en fait plus, il l'est plus. Donc, alors que je pense qu'on est médecin tout le temps. Quand on a commencé à l'être, il y a ce serment envers Hippocrate et cette vocation. Je ne sais pas si on peut parler de malédiction, mais c'est une vocation qu'on a pour toujours. Le réalisateur, qui est lui-même médecin, continue de dire d'abord qu'il est médecin avant réalisateur.
Et vous n'êtes pas comédien en dehors des plateaux ? C'est quelque chose que vous êtes sur le moment, pendant le tournage ou sur une scène de théâtre, mais pas en dehors.
C'est facile à dire, en même temps, c'est mon métier, donc en ce moment. Donc oui, je suis comédien. Après, j'essaye au maximum d'oublier que je suis comédien quand je ne suis pas sur un plateau ou en train de travailler.
Alors justement, comment vous êtes préparé pour ce rôle de médecin avec le réalisateur qui lui-même a été médecin, qui lui-même a été interne ? Est-ce que vous faites partie de cette famille d'acteurs qui aime être sur le terrain, travailler par exemple dans un hôpital pour voir véritablement comment ça se passe ?
Oui, alors travailler comme médecin, bon, ça aurait été un peu difficile, mais effectivement, c'est important. C'était important par rapport à ce film de coller au plus près de la réalité, notamment pour ce qui est des gestes, d'une certaine attitude. On a fait avec Thomas Lutti et Vincent Lacoste une matinée à l'hôpital de Garches, là où on tournait, où on s'est fait passer pour des stagiaires et où on a fait la tournée des chambres avec un médecin. C'était assez précieux comme préparation et assez étonnant, surtout sur le regard qui nous était renvoyé, en fait. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'était le regard des patients qui étaient pleins de confiance et pleins d'attente en même temps vis-à-vis de nous, qui étions comédiens stagiaires, donc en train de préparer ce film. Puis j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer un médecin qui a inspiré mon personnage, l'écriture de ce rôle, qui s'appelle Majid et qui a été lui-même faisant fonction d'interne, donc médecin algérien, travaillant en France dans ce statut-là. C'était vraiment intéressant de parler avec lui.
À quel niveau ? Pourquoi, par exemple ?
Par rapport à... pour sentir, en fait, comment il vivait cette chose de l'intérieur. Il n'était pas seulement question d'être crédible en médecin, dans comment est-ce qu'on met des gants ou comment est-ce qu'on fait une piqûre, mais savoir, par exemple, où on place le curseur de l'affect et de l'empathie dans le rapport au patient. J'ai des scènes comme ça, à l'écriture assez forte, avec une dame notamment en fin de vie, et j'avais une image des médecins qui ne devaient pas être touchés en fait par les patients. Et lui, il m'a dit que c'était tout le contraire, qu'il fallait toujours l'être. Donc voilà, j'avais comme ça des préjugés un peu pour ce métier. C'était vraiment intéressant de l'écouter, d'en parler avec lui.
Lucille.
C'est étrange parce que l'hôpital, c'est moins un lieu de cinéma que de télévision. Il y a des séries depuis Urgence, Grey's Anatomy, Doctor House. Est-ce que vous avez évoqué ces références-là avec le réalisateur Thomas Lutti ?
Oui, elles sont même présentes dans le film. Il y a voilà, les médecins, les infirmières qui, au poste de garde, s'amusent à regarder Doctor House et qui connaissent par cœur la fin de l'épisode et la solution de l'énigme. Après, c'est vrai qu'il y a aussi une culture du secret, en fait, dans l'univers médical. Donc, le secret médical, c'est un peu transposé au cinéma ou à la télé dans les traitements qui peuvent être faits de ce sujet-là. Et avec ce film, enfin, moi, j'avais jamais vu ni lu de scénario qui pénétrait dans ce monde-là. Et je trouve que les films, en général, c'est toujours intéressant quand on rentre dans un monde et après, il faut avoir une histoire à y raconter, mais... C'était ce qui m'intéressait aussi. Ouais.
Le film touche au registre de la comédie tout en maintenant une distance documentaire. Mais la comédie, c'est un genre que vous n'avez pas vraiment approché, à part peut-être les garçons et Guillaume à table. Est-ce que c'est un genre qui vous résiste ou c'est vous qui résistez à ce genre? Peut-être parce que la comédie en France est un genre difficile.
Difficile.
Difficile, j'entends ce que je veux dire par là.
Oui, bah,
généralement, pour moi, l'image est absolument hideuse,
ouais,
etc. Bon.
Voilà, pour moi, c'est difficile de trouver un bon scénario de comédie pour le moment, mais je le cherche, je le cherche. Je ne résiste pas à la comédie, non, j'aime bien.
Vous avez refusé des rôles de comédie ?
Oui, mais quand je lis un scénario, je me demande pas si j'ai la bonne comédie ou le bon drame à me mettre sous la dent. J'essaye de trouver les meilleurs scénarios possibles et les rôles les plus intéressants à jouer. Mais voilà, il s'est trouvé que oui, on m'a envisagé plus dans des choses plus dramatiques. Et, je vais notamment la réaliser et jouer dans un court-métrage que j'ai écrit à la fin du mois qui sera plus dans la comédie.
Qu'est-ce qui vous fait rire au cinéma, Reda Kateb ?
Le tragicomique, en fait. Du coup, voilà, je le trouve assez rarement. C'est-à-dire le pathétique, quelque chose où finalement on ne sait pas si... on rit de personnages sans les avilir, en fait. On peut se moquer d'eux tout en se moquant de nous-mêmes.
Et ça, vous trouvez ça dans quel cinéma ?
Dans le cinéma italien, pas mal, dans des films comme Le Pigeon, L'Argent de la Vieille, enfin voilà, toutes ces années-là du cinéma italien que j'ai découvertes il n'y a pas si longtemps. Et il y a un ton, les monstres, enfin, aussi une férocité, mais qui passe par l'humour, donc quelque chose du coup qui n'est pas seulement le bon mot, la bonne blague. Il y a aussi tous les films avec Will Ferrell, les films de Ben Stiller. Enfin, il y a plein de choses qui me font rire et voilà, j'espère qu'en France, on arrivera à s'en mettre sous la dent.
Patrick Chia, vous, on parlera tout à l'heure de votre film qui a aussi une dimension du comique, de situation et burlesque. Quel est le cinéma, vous, qui vous fait rire ou que vous appréciez plus particulièrement ?
Moi, j'aime bien le comique. J'appellerais ça d'hystérie. C'est-à-dire les gens qui sont un peu, qui n'arrivent pas à se maîtriser, qui parlent trop, qui bougent trop. Et il y a ça chez beaucoup d'Américains que j'aime beaucoup, les Apatow ou moins comique, Whit Stillman ou même Romer.
Même Romer. D'accord. Bah cette hystérie chez Romer.
Non, mais
vous pensez à quoi, par exemple? En plus, c'est vrai, ce sont des comédies. Non, ça ravit Jean-Marc Lalanne.
Les gens qui sont envahis par leurs propres paroles et qui n'arrivent pas à le maîtriser, oui, ça me fait beaucoup rire. Ça.
Les premiers rôles avec Lucchini aussi, chez Romer.
Évidemment, ouais. Lucchini, Lassa, ou voilà.
Chez Romer. Lucille.
Reda Kateb, vous avez interprété un terroriste dans Zero Dark Thirty, le film de Catherine Bigelow sur la traque de Ben Laden, et vous décrivez cette expérience-là avec beaucoup d'enthousiasme. Vous avez renouvelé cette expérience outre-Atlantique avec Ryan Gosling. Je sais que vous admirez la précision des réalisateurs anglo-saxons. Qu'est-ce que vous entendez par là, cette précision ?
J'ai pas vraiment de généralité à dire sur les réalisateurs anglo-saxons parce que chaque réalisateur est vraiment différent et puis j'ai travaillé beaucoup plus en France donc j'ai eu 3-4 expériences outre-Atlantique.
Quelle serait la différence à ce moment-là entre ce que vous avez vécu en France et le peu d'expérience que vous avez outre-Atlantique ?
Bah justement, je retrouve en fait chez des réalisateurs comme Catherine Bigelow ou en l'occurrence Ryan Gosling qui faisait son tout premier film, ce que j'ai aimé chez un homme comme Jacques Audiard par exemple, qui est de considérer ses comédiens comme des partenaires artistiques et qui est de ne pas oublier cette espèce de vertige qu'on a quand on arrive sur le décor le matin et qu'on se demande qu'est-ce qu'on va faire et est-ce qu'il va se passer quelque chose. Voilà, de chercher ensemble... Et je l'ai trouvé avec ces réalisateurs-là dans des choses très différentes. Et c'est une chose que j'aime qui fait que je me sens galvanisé quand je tourne. Quoi.
Vous, Patrick Chia, quelles sont les relations que vous entretenez avec vos comédiens ?
Mais j'espère ce que Reda Kateb décrit là. Je me demandais si les réalisateurs français, alors bon, moi je ne suis pas français, mais si je fais très attention moi à ce qui se passe au début du plateau et être à l'écoute des corps et des autres.
Mais on le trouve beaucoup en France aussi, c'est pour ça, c'est vraiment, enfin, c'est pas évident de généraliser.
Non, j'imagine. Et puis là.
Alors pour donner une image de votre présence au cinéma, Reda Kateb, notre réalisateur Thomas Beau a réalisé un petit montage tout à fait orienté, il faut bien l'avouer, à partir de votre filmographie. Montage.
Et c'est qui ?
C'est la salope ?
Comment tu sais ça ?
Bah moi je vais prendre un nom de pute. Mario.
Ok Mario. Mais écoute, si tu te fais arrêter...
Non, je me fais pas arrêter, non.
Ah mais tu sais, un contrôle, une garde à vue...
Non mais c'est pas possible, pour moi c'est pas possible.
T'en es où avec les barbus ?
Oh pardon.
T'as pas l'air habitué.
Ça, c'est sûr.
Toi, t'es qu'un petit employé. Tu es qu'un vide poubelle dans ta boîte. Pourquoi je te respecterai, hein? Pourquoi? Vas-y, dégage, dégage. Nous, on kiffe les robots, on kiffe pas les mythos. Dégage. Allez.
Tu vois, en plus, elle te fait mal.
Toi, tu fermes ta gueule maintenant, d'accord? Tu te mêles de quoi, toi? Putain. Putain.
Tu déconnes, tu m'as pris pour qui? Je suis pas un tueur.
Alors dans le montage, on retrouvait qu'un seul tienne et les autres suivront. Zero Dark Thirty, Gare du Nord, Les Garçons et Guillaume à table, et puis Un prophète de Jacques Audiard. Lucille ?
Dans votre premier épisode d'Engrenage, vous jouiez un type qui engueule un garagiste et après qui explose un pare-brise sur une voiture. Depuis, même dans les films où vous incarnez une certaine douceur, comme dans Gare du Nord par exemple, qu'on entendait dans le montage, vous avez des moments d'explosion ou d'insulte.
C'est ce qu'on a pu entendre pendant tout le montage, en effet.
Vous dites quelque part qu'il y a quelque chose de jouissif là-dedans, dans ce genre de moment au cinéma. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
J'entends que je ne joue ni pour être un gentil garçon, ni pour être un méchant gars, ni pour être un séducteur, ni pour être un je ne sais quoi. Je joue pour porter des histoires en dehors de moi-même. Et du coup, quand il est question de jouer la violence, oui, il y a quelque chose presque du rite de possession, quoi, d'avoir un endroit en fait où on peut faire sortir ça. Je pense que tout le monde aimerait bien de temps en temps être payé à péter un pare-brise dans une journée. J'ai la chance de pouvoir le faire de temps en temps, mais à d'autres moments, c'est plus de la dentelle qu'il faut tisser. Donc voilà, c'est toujours d'être en accord avec la scène à jouer. De temps en temps, et quand il faut lâcher les chevaux, ça ne fait pas de mal.
Vous avez commencé au théâtre très jeune, hein, sous la direction de votre père Malek Kateb, puis au sein d'une compagnie, le Théâtre Opprimé. Dans quel rôle vous étiez distribué au théâtre, Malek Kateb?
Je ne peux pas dire que j'ai eu d'étiquette, de typecast, de rôle au théâtre. J'ai commencé les premières années, c'était beaucoup de dire de la poésie en fait. Donc de le rapport au texte, de proclamer des textes. J'ai un des premiers spectacles dans lesquels j'avais joué, je crois que j'avais 18 ans, c'était sur Arthur Rimbaud. C'était une tragédie musicale sur Arthur Rimbaud qui racontait sa vie et qui en même temps mettait en scène les textes du Bateau ivre, d'Une saison en enfer, tout ça. Et puis après, je suis devenu intermittent du spectacle à partir d'un spectacle que j'avais monté sur les textes de Kateb Yacine, qu'on entendra, je crois, tout à l'heure.
On entendra tout à l'heure, parce que c'est le son que vous avez choisi. Enfin, pas le son que vous avez choisi, mais quelque chose en rapport avec le son que vous avez choisi. Ouais.
Et voilà, et c'était l'idée de porter un texte, en fait. Et j'avais ce plaisir un peu dont je vous parlais juste avant, d'être un peu des fois possédé comme ça par des énergies, mais toujours avec l'idée de faire découvrir un auteur et un texte. Et en l'occurrence, c'était de ma famille, mais c'est surtout un auteur avec lequel j'ai grandi en tant qu'être humain aussi.
Lucille.
Oui, parce que votre père, donc Malek Kateb, était un grand comédien. Il a joué avec Mouchkine notamment et Bernard Sobel. Est-ce que vous avez échangé avec votre père sur ce métier? Est-ce qu'il vous a mis en garde? Vous a parlé de ses rôles, peut-être d'un rôle particulier?
J'ai échangé beaucoup autour de ce métier. Bon, j'ai grandi dans les coulisses de théâtre, dans les loges, à assister à des répétitions. Un ami à lui avait besoin d'un gamin quand j'avais 8 ans pour dire deux mots dans une pièce. Et puis je l'ai fait et ça m'a tout de suite plu, l'atmosphère m'a plu, j'avais envie de faire ça. À ce moment-là, voilà, ça lui avait fait un peu peur, mais après quand il a vu que j'apprenais, que je me passionnais pour cette chose-là, on avait des longues discussions et c'est vrai que c'est peut-être ce qui a fait qu'après j'avais pas envie d'aller dans une école. Enfin, il y avait un peu une transmission comme dans les musiques traditionnelles ou dans le cirque, ou je sais pas, une chose de père à son fils. Ouais.
Patrick Chia, de votre côté, la vocation réalisateur, c'est attribué à une histoire familiale ou ça n'a rien
pas
à voir?
Pas du tout, mais c'est assez beau ce que dirait Kateb. Moi, je me rappelle les premières fois que j'allais dans les loges de théâtre et peut-être c'est né là, il y a quelque chose de très mystérieux, qu'est-ce qui se passe derrière? Puis j'avais essayé d'être comédien jeune, c'était une catastrophe évidemment, et puis petit à petit, je sentais que j'adorais dire aux autres ce qu'on pourrait faire, quoi. Ça vient peut-être comme ça.
Vous avez tenté de jouer ou vous avez joué véritablement la comédie?
Catastrophe, non, pas véritablement. Puis j'ai fait de la mode un moment, donc je suis vraiment passé par d'autres chemins, mais...
Alors, tous les jours, on demande à nos invités de venir avec un son qu'ils ont envie d'écouter ou pas. Vous, c'était ça, hein, Reda Kateb, on écoute.
Bonjour ma vie, et vous mes désespoirs, me voici au fossé, on a qui ma misère, voici le coin.
Alors, explication, qu'est-ce qu'on écoute ? Même si moi je le sais, Reda Kateb.
On écoute un morceau de Damazir Kateb, le chanteur de Gnawa Diffusion, qui chantait pour la première fois sur cet album les textes de son père, Kateb Yassine. Donc là, c'est un poème qui s'appelle « Bonjour », que je trouve très beau et que j'avais trouvé à l'époque dans « L'œuvre en fragments », qui était une édition des premiers textes de Kateb Yassine qu'il avait écrit quand il avait 15-16 ans, vraiment tout jeune. Et voilà, j'aime la manière dont cet auteur prend la langue française en la faisant sonner comme on peut la faire sonner en Afrique, quoi. On peut écouter encore un peu.
Ouais, bien sûr, on remonte.
Ainsi en mon jardin pourri fleuri d'espoir. Bonjour de ma vie. Et vous mes désespoirs. Me le voici au fossé. On a qui ma misère. Voici le coin de boue où dormait mon pharaon fier. Voici ma vie à moi rassemblée en poussière.
Kateb Yassine, c'était votre grand-oncle, une grande figure à la fois de la littérature algérienne et de la lutte pour l'indépendance. Il était né dans les années 20 à Constantine. Vous l'avez connu ?
Non, malheureusement, non. Je l'ai connu que par ses œuvres.
Et dans votre famille, quelle était l'image qu'on vous en donnait ?
L'image de une grande figure, quoi. Une grande figure. Kateb Yassine en Algérie, c'est un peu Victor Hugo en France. Voilà. Et en même temps, c'est un grand poète et écrivain qui écrivait pour les analphabètes. Donc il y avait cette chose, un peu cette plusieurs contradictions, mais en même temps, devant lesquelles il ne reculait pas, d'écrire en français avec l'envie de dire des choses de son algérianité et en même temps d'écrire pour ces gens-là et de ne pas être lu par eux. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui l'avaient connu pour le coup sans jamais le lire. Ouais.
Dernière question, Lucille.
Dans Hippocrate, il y a une scène musicale dans la cafette des internes de l'hôpital. Vous y participez plus largement. Est-ce qu'elle était prévue au scénario ou est-ce qu'elle est venue comme ça ?
La scène, vous voulez dire de la roue ? Oui, c'était écrit, ouais. C'était écrit. Oui, c'était totalement écrit.
Vous aimez chanter ?
J'aime bien.
On ne va pas vous le demander, donc vous pouvez répondre oui. Hein, c'est pas...
Oui, j'aime chanter, bien sûr.
Et quel répertoire ?
J'aime le blues, j'aime beaucoup Skip James, Robert Johnson, j'aime la musique Gnawa, j'aime des musiques du Mali, Ali Farka Touré, pas mal de choses.
Jouez-vous-même de la musique ?
Oui. Oui, de temps en temps, mais
vous jouez de quoi ?
Je prépare pas d'album.
Non. Et vous jouez de quoi, Reda Kateb ?
Un peu de percussion, et puis un petit peu de gembri, c'est justement un instrument gnawa qu'on entend dans ce morceau, et qui est une basse africaine à trois cordes, avec une peau sur laquelle on peut donner des accents rythmiques.
Voilà.
Le rendez-vous, la chronique.
Avant de vous retrouver, Reda Kateb et Patrick Chia, tout de suite, c'est la chronique, le grand retour de Jean-Marc Lalanne. Mm-hmm. La preuve, une fois de plus, qu'il sait lire un livre. Donc, Assayas par Assayas,
voilà.
Chez Stock.
Il y a une double actualité, Olivier Assayas, à cette rentrée. Il y a d'abord son dernier magnifique film, Sis Maria, qui est à l'affiche depuis 15 jours. Et puis, il y a ce livre, Assayas par Assayas, qui est un livre d'entretien mené par le critique de cinéma Jean-Michel Frodon et qui est vraiment très intéressant à double titre. D'abord, il est passionnant comme livre de cinéma. C'est-à-dire qu'Olivier Assayas, on sait qu'il a été critique de cinéma. Donc, il a une habileté rhétorique très impressionnante à parler de sa pratique de cinéaste, à la théoriser et à la projeter dans des enjeux plus larges qui sont des enjeux généraux de cinéma. Donc, c'est vraiment un très bel essai sur le cinéma. Mais c'est aussi, et ça, c'est un peu la surprise qu'on a en découvrant le livre, c'est aussi un passionnant récit autobiographique. C'est-à-dire que le début du livre, de manière assez surprenante, ça ne commence pas avec l'œuvre de cinéaste d'Assayas, ça ne commence pas, ce qui serait aussi attendu, par son enfance, sa formation intellectuelle, mais ça commence par une stupéfiante généalogie familiale qui remonte jusqu'aux racines du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait une enquête très très fouillée sur sa famille paternelle, maternelle, et on retraverse toute l'histoire du XXe siècle. Sa mère, par exemple, était une aristocrate hongroise qui a fui son pays lorsqu'il est tombé sous la coupe du régime soviétique. Son père est né à Constantinople dans les années 10, a fui en Europe, puis a fui l'Europe nazie et s'est installé en Argentine. Et donc, Olivier Assayas, c'est la production de tous les grands flux migratoires produit par les grandes secousses historiques du XXe siècle. Et ça en dit beaucoup sur son cinéma, parce que son cinéma, il est fait sur le déplacement perpétuel. Il y a une sorte de principe de mouvement qui régit ses films et qui est peut-être produit par cet imaginaire familial qui s'est déposé en lui. Et on se dit aussi que ce rapport extrêmement aigu à l'histoire qui lui a été transmis par ses parents, c'est peut-être aussi ce qui rend assez stupéfiant son trajet de vie, c'est que Olivier Assayas, c'est quelqu'un qui a le génie, et on l'écoute vraiment avec ce livre d'entretien, pour être toujours au bon endroit, au bon moment. C'est un peu une sorte de Forrest Gump du cinéma d'auteur français. Il est toujours là où il faut, au bon moment. Il est vraiment sur la photo, un peu comme Forrest Gump.
Qui était exactement au bon endroit, au bon moment sur la photo.
Et par exemple, lorsqu'il a 20 ans, c'est le punk, et il est aux premières loges de la scène punk. Il est très très proche du groupe punk des Stinky Toys, avec Élie Jacquenot, dont il va réaliser les premiers clips, Rectangle, chef-d'œuvre absolu. Aussitôt après, il rentre au Cahier du cinéma dans un moment vraiment très passionnant, l'histoire des cahiers, puisque c'est Serge Janet qui le fait entrer. Et la revue sort un peu des années de radicalité politique, renoue avec le cinéma américain. Et c'est vraiment lui qui amène au Cahier un renouveau de la cinéphilie américaine. Il découvre Cronenberg, il est le premier à écrire sur Cronenberg en France, Wes Craven, John Carpenter. Et aussitôt après, il se passionne pour le cinéma asiatique. Et vraiment 10 ans avant que ce soit la mode, il découvre Wu Xiaoxian, mais aussi le cinéma d'art martial, John Woo. Il est un des premiers Français, grâce à un numéro spécial des Cahiers en 84, à écrire sur ce cinéma-là en plein renouveau. Donc il y a cette puissance qui est vraiment très très plaisante dans lui de voir qu'il a toujours été au bon endroit et qu'il y a une sorte de flair journalistique qui a mené son trajet de vie. Et puis ça ne s'arrête pas comme ça, puisque dans quelques semaines, il va commencer aux États-Unis son premier film américain avec Robert Pattinson. Donc c'est une vie qui est consacrée entièrement à créer des passerelles, jeter des ponts entre des régions comme ça de la création qu'on pourrait penser pas conciliables ou très très éloignées. Et du coup, vraiment, ce qu'on se dit en lisant le livre, c'est pas seulement son œuvre qui est une proposition esthétique, mais aussi la manière dont il a mené sa vie comme ça, comme une espèce de radar qui, sur le grand planisphère de l'art, voit à quel endroit il y a de la création.
Je vais rebondir sur cette histoire de cinéphilie, notamment la cinéphilie américaine, parce que c'est avec ce cinéma-là que vous vous êtes construit, j'ai pu lire dans les entretiens à Reda Kateb, plutôt du côté du cinéma américain. À quel moment vous avez découvert le cinéma français? J'ai pu lire que c'était au moment où vous étiez projectionniste, c'est ça, dans un cinéma d'art et essai à Ivry. Qu'est-ce que vous découvrez dans le cinéma français à ce moment-là?
Je découvre des films qui ne passaient pas à la dernière séance sur FR3 de quand j'étais petit. Je découvre des films à la fois récents de ce moment-là. Je pense à Y aura-t-il de la neige à Noël ou des choses comme ça. Voilà, c'est assez particulière. Et puis après, dans ce cinéma, on faisait des rétrospectives. Donc j'ai pu rencontrer les films de François Truffaut, Drenoir, et qui m'ont vraiment beaucoup plus marqué, j'avoue, que les films qui passaient à ce moment-là, quoi, qui sortaient à ce moment-là.
Comment vous êtes construit votre cinéphilie, Patrick Chia?
Chaotiquement, mais je crois un des premiers souvenirs, c'est vraiment Buñuel, bizarrement. Buñuel, c'était les films français de Buñuel aussi. Il a dû avoir une rétrospective à Vienne et quelqu'un a dû m'amener. Puis il y avait Jean Vigo aussi, ça c'est des souvenirs. Après, est-ce qu'il reste des choses de ça, je ne suis pas du tout sûr. Mais je me rappelle, ça c'était le chemin, quoi, comme ça, rentrer lentement.
Le rendez-vous.
Plateau Névrose avec vous, Patrick Chia, réalisateur. Vous signez Boys Like Us, le film qui emprunte son titre à la chanson du groupe Haussmann qu'on entend derrière nous. À ce sujet, j'ai lu que vous auriez pu intituler le titre en français. Ça aurait été « Nous sommes tous des garçons névrosés ». Vous n'avez pas opté pour ce titre-là? Ça faisait trop cinéma indépendant français des années 90?
Peut-être. C'est compliqué les titres. J'avais envie que ça ressemble à une chanson, un peu. Le titre du film, et puis d'autre part, bon, moi je suis autrichien, et donc il y a l'allemand, il y a le français, et sans doute ça m'arrange qu'il y ait une troisième langue entre, pour titre.
Parfait. Benoît Lagan.
Alors retour à votre film, votre deuxième long métrage qui sort en salle aujourd'hui, l'histoire de trois amis gays qui décident de quitter Paris pour l'Autriche. Gabriel et Nicolas suivent leur ami Rudolf, d'origine autrichienne, qui après une rupture amoureuse rentre dans son pays. On écoute la bande-annonce.
Bonjour, je peux avoir une blouse s'il vous plaît?
Vous en avez pas une sans tache?
C'est pas des taches, ça a été lavé, c'est des taches propres.
Là, t'as l'accueil. Derrière, c'est le bureau des internes. C'est chez toi.
Alors, on ne va pas repasser la bande-annonce du film de Renata Thème. Remarque, c'est assez surréaliste. Justine, on parlera du même film toute l'année. Ça va être le principe de l'émission. Chaque film, Catherine Deneuve viendra, ça sera quand même une tâche propre. Il n'y aura aucun problème. Est-ce qu'on a retrouvé la vraie bande-annonce? Non. Alors, on va peut-être commencer directement. Si, on a retrouvé, il lève le doigt en technique. Toujours chaud, hein, le réalisateur. On y va.
Et c'est quoi tous ces cartons?
Je rentre en Autriche. Je vais trouver un appart, je loue un camion.
C'est quoi ce délire?
Ça fait genre 15 ans que tu n'y es pas allé?
En haute montagne. Vous savez si le sol il est terreux ou rocailleux?
Il est terreux, je crois.
Ou rocailleux.
On peut dire les deux?
J'ai dû remonter, j'avais oublié mes tongs.
T'as pris tes tongs? Moi j'ai pris ma planche à bois là.
Ihr müsst euch zuerst das Müsli vom Buffet holen und ich bringe euch dann den Kaffee und das Brot nach dem Ei.
Can I have an espresso now? Like right now?
Nein.
Thanks.
Non, elle servira le café après. Écoute.
How is it love between men?
It's sort of the same as this girl.
C'est quand même pour t'aider qu'on est venu aussi.
C'est pas Paris que je fuis. C'est vous.
Tu déconnes ou quoi? C'est lui qui délire. Il croit vraiment qu'avec lui qui prend sa vie en main.
Vous avez tout fait foirer.
Peut-être que c'est lui qui a raison depuis le début. Il avance. C'est courageux ce qu'il fait.
On était un peu au mot cliché aujourd'hui, non?
Patrick Chéan, on l'entend dans la bande-annonce, le film est une comédie qui joue volontairement sur les homo-clichés. Alors je vous cite, vous souhaitiez faire avec ce film, refaire un tour pour voir ce qui reste des particularités et des clichés homo et ce que l'on peut encore faire avec. Contre quelle représentation de l'homosexualité au cinéma vous souhaitiez finalement construire votre film?
Mais je ne sais pas si je me suis posé tout à fait la question comme ça. Simplement, je trouve qu'il y a énormément de réalisateurs, mais aussi dans d'autres domaines, qui se sont battus quoi, pour la banalisation de l'homosexualité. Il y a plein de films depuis 10 ans où ce n'est plus une problématique, l'homosexualité dans les films. Et je suis très reconnaissant pour tout ce travail et je sentais en écrivant ce film que c'était très important. C'est pas le thème du film, c'est une sorte de cadre. C'est comme si, bon, ils sont en Autriche, c'est un peu le même fait comme ça. Et en même temps, en tournant, il y avait un truc bizarre, parce qu'évidemment, bon, dans le scénario, c'était là, mais il y a quelque chose qui nous unit dans l'amitié. Il y a un parcours qu'on a fait ensemble, sans doute, entre homosexuels, quelque chose, comment on a appris cette sexualité et comment on a toujours su déjouer les clichés qu'on nous a attribués en se les réappropriant, en faisant des tonnes, en rigolant. Et je sentais qu'il fallait donner ça au film et pas faire un truc si politiquement correct que c'était rien. Bien sûr, c'est 3 gays un peu bruyants.
Quels sont les films qui vous ont marqué justement dans leur traitement de l'homosexualité? Vous parlez depuis une dizaine d'années, une sorte de banalisation.
Par exemple, un exemple, les films de Christophe Honoré. C'est quelqu'un qui a su depuis un moment tout, et qui montre ça très beau. Genre que les personnes sont des personnes, voilà, et que leur sexualité, c'est flottant, c'est aussi leur affaire, quoi.
Rita Kateb, vous avez aimé tourner cette scène où vous traitez de salope Guillaume Gallienne dans son propre film?
Bien sûr que j'ai aimé la tourner, sinon je ne l'aurais pas fait.
Ouais. Comment Guillaume Gallienne vous a casté pour ce rôle-là?
Il ne m'a pas casté, on s'était déjà rencontrés, on avait lu du Camus ensemble dans son émission. Et puis,
ouais, ça change.
Un jour, il m'a... Oui, ça change.
Ouais, ça change.
En effet, ouais. Et non, un jour, il m'a envoyé son scénario en me disant, voilà, à mon avis, tu vas refuser, mais t'inquiète pas, je t'en voudrais pas, et voilà. Mais je pense à personne d'autre, et j'aimerais bien que ce soit toi. Et j'ai adoré son scénario, en fait. Donc voilà, c'était comme un clin d'œil,
oui,
et puis une petite incursion dans une comédie, pour le coup, que j'ai aimé, quoi.
Benoît Lagan.
Alors, vous filmez 3 homosexuels, mais surtout 3 acteurs trentenaires, fringués comme des adolescents. Vous les filmez plus comme des garçons que des hommes. C'était une volonté de votre part?
Oui, volonté. Oui, je sentais que j'avais envie de montrer ça.
C'est
garçons qui approchent des 40 ans et qui essayent encore des enfants ou de retenir leur enfance et comment l'enfance dit au revoir comme ça dans le film et dit bon, on ne retourne pas chez soi. Ce qui était important, bon, j'aime beaucoup les films. En général, les beaux films, ils traitent du temps, quoi. Et je sentais que la question de temps me préoccupe beaucoup. Et là, sur ce ton plus léger, plus bordélique, j'avais envie de re-questionner le temps et comment chacun a son rapport au temps. Donc celui qui revient, la mélancolie de l'un, l'autre qui reste ado. Donc Je pense que c'était ça ma volonté, quoi. Comment inscrire ces trois mecs-là qui approchent la quarantaine dans le temps et donc ce truc un peu comment ils retiennent l'enfance.
Et vous, comment vous travaillez cette histoire du temps, puisque vous disiez que c'est quelque chose qui vous travaille particulièrement, Patrick Chia, en tant que réalisateur, par exemple, dans ce parcours?
Le temps, c'est différentes choses, mais je sens, par exemple, il y a un lien entre temps et rythme. Là, dans ce film-là, une de mes premières envies, c'était faire un film rapide, où il soit très, très stressé, mais qu'il n'y a pas de raison, quoi. C'est-à-dire, ils sont dans un village entouré de montagnes, il n'y a pas de but très, très précis, et sans doute, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup les gens qui sont un peu hystériques, mais sans raison, quoi. Et là, ils tournent en rond sur ces chemins avec tous ces panneaux et on se demande quel est le bon chemin et où est-ce qu'on pourrait aller. Et d'évidence, ils tournent en rond et ils cherchent à sortir de leur vie ou à la gérer, quoi.
Benoît. Ce goût pour le comique semble lié à l'Autriche. En fait, du moins, c'est votre productrice, Charlotte Vincent, qui vous l'a fait remarquer. En quoi placer vos personnages en Autriche était vecteur de comédie, Patrick Chia?
Je pense que l'Autriche, moi, me fait beaucoup rire, comme elle me fait beaucoup horreur. Donc, je suis autrichien. Donc, c'est comment gérer mon rapport à mon pays. Après, je ne sais pas si c'est tellement... Alors, bon, bien sûr, c'est un peu spécifiquement autrichien. Et après, c'est une question aussi comme quel rapport a chacun avec là d'où il vient, quoi. Donc, je pense que ça se partage. Chacun a un rapport assez compliqué avec l'endroit d'où il vient. Et que ça fait beaucoup de bien d'en rire aussi, que ce n'est pas si grave d'où on vient. Voilà. Et après, l'Autriche incarne quelque chose qui, moi, m'amuse beaucoup, qui me préoccupe, je crois, dans mes films. Genre, je l'ai remarqué après les 3-4
courts-métrages
et tout ça. L'Autriche, ouais. Mais bon, c'est pas l'Autriche, vraiment. Je pense que c'est quelque chose d'un peu humain entre désordre et ordre, quoi. J'imagine que ça me préoccupe.
L'Autriche aussi, c'est la façon de filmer un paysage. Quelles sont les indications que vous avez données à votre directeur de la photographie, Anton Parouti, justement, pour travailler les paysages autrichiens?
On a déjà tourné plusieurs fois en Autriche ensemble. Donc, il est venu parfois avec des choses qu'il savait déjà de ce qu'on faisait. Et ici, on a changé pas mal de choses.
Ouais. C'est pas du tout la même lumière que dans Domaine, par exemple, les autres.
Non, il y avait l'envie de lumière, là. Ouais. On m'avait dit que c'était un peu sombre, donc là, on a attendu
quand
le soleil.
Quand on vous dit des choses, vous écoutez. Alors,
non, mais disent... j'avais envie de lumière, là. Et ce qui était important, c'était le vertige, ce que je lui ai dit. C'était vraiment, j'avais envie de la taille des montagnes, qu'on ait cette sensation qu'on pourrait tomber, quoi, et que ce soit très plongé, contre-plongé. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et sur l'image, effectivement, comme vous avez dit tout à l'heure, les comédies sont souvent moches. On a essayé de faire pas moche, et je voulais surtout faire doux. Alors que les comédies, elles ont toujours un côté acide dans l'image. Et je voulais faire un truc très, très doux à l'image de l'amitié des trois personnages. Donc, on a travaillé avec un filtre qui s'appelle Glimmer et que j'adore.
Glimmer.
Il y a différents degrés. Mais c'est des adoucissants comme ça pour grande actrice. Et ça donne un truc absolument dingue.
Je pense que vos acteurs Capdevielle et les autres Jean-Luc Vernet devaient être ravis.
Ravis. Mais ça donne un truc génial sur la montagne parce que ça lui donne quelque chose d'un peu Friedrich. Comme ça, ça la rend un tout petit peu irréel.
Alors à propos de l'Autriche, vous nous avez apporté, comme le font tous nos invités, un son qui vous a marqué. On l'écoute même si la qualité n'est pas exceptionnelle.
Une foule décrit un son autrichien, ça pourrait faire peur, mais qu'est-ce que c'est, Patrick Chia?
C'est un son qui m'a beaucoup marqué, j'y étais. C'était en 1988, c'est la première de la dernière pièce de Thomas Bernhardt au Burgtheater à Vienne. Ça s'appelle la place des héros et le pays s'est déchaîné pour cette pièce. Et j'avais 13 ans et je crois le rideau était tombé, Thomas Bernhardt est mort 2 semaines après. Et je connaissais pas Thomas Bernhardt, j'étais un ado comme ça et par hasard j'étais là. Et le public qui se déchaîne et vraiment les gens se hurlent dessus. Alors les uns adorent et les autres détestent. Et je crois cette violence-là ou que le théâtre puisse produire cette violence-là dans ce pays-là, je pense quelque part ça m'a marqué énormément. C'est un pays qui... Bon, c'est absurde de parler d'un pays parce qu'on ne fait pas un film pour dire quelque chose sur un pays. Mais c'est un pays qui m'impressionne beaucoup et qui est absolument atroce. Et cette violence-là, je pense je l'ai gardée. Et j'aime beaucoup ce son, il est de mauvaise qualité, mais c'est 1988.
Et on peut voir la vidéo, justement, on peut voir tous les spectateurs qui sont...
Non, elle est super, c'est un déchaînement. Et je ne l'ai jamais revu au théâtre, ça. Et ça allait très loin. Hein.
On l'a vu au Théâtre de la Ville, par exemple, régulièrement au Théâtre de la Ville à Paris ou même dans d'autres théâtres. C'est par exemple, les premières pièces de Jérôme Bell, où les gens montaient sur scène pour insulter les acteurs.
Et l'Almère a démissionné de la ville.
Non, oui, d'accord. C'est devenu un événement national.
Le drame. Tout à coup, un texte dit quelque chose sur un pays à un moment dans les années 80 et il dit c'est même trop tard que je vous le dise. Quoi.
Et qu'est-ce qu'il disait?
Mais il dit que ce pays n'a jamais fait son boulot. Quoi. Qu'ils applaudissent encore les nazis.
À propos de l'Autriche et de votre cinéma, vous expliquiez, c'était pour Homme, un de vos moyens-métrages, que vous aviez été surpris au montage par la dureté avec laquelle vous aviez filmé l'Autriche. Est-ce que pour Boys Like Us, vous avez découvert une autre facette de votre film au montage?
Bien sûr, peut-être on s'adoucit hein, avec de film en film, mais je ne sais pas d'où ça vient. Ici, il y avait quelque chose, je crois que j'ai un rapport aussi très doux à l'Autriche. Par exemple, tous les panneaux dans le film, alors bien sûr...
Il y en a beaucoup des panneaux.
Oui, il y a des spectateurs qui disent, bon, c'est horrible, tous ces panneaux. Mais je dois avouer que je les adore, c'est très très beau. Hein,
qu'est-ce que c'est que ces panneaux? Racontez ce que c'est que ce...
Mais c'est-à-dire, il y a deux sortes de panneaux en Autriche. C'est-à-dire, on ne peut pas se perdre dans la forêt, c'est impossible. Genre, les panneaux sont jaunes, très très précis, les chemins ont un numéro et tout ça. Et il y a d'autres gammes de panneaux qui sont plutôt des interdits sur garder la nature, genre ne pas passer sur un court-circuit.
Ne pas prendre les raccourcis, parce que ça brise la nature, il faut rester sur les sentiers.
Donc il y a deux choses, évidemment.
Ça fait rire.
Oui, évidemment, les gens trouvent ça horrible, mais je dois être très sincère, je trouve ça magnifique parce qu'évidemment on ne se perd pas et c'est très très beau de ne pas être inquiété dans une forêt. Et d'autre part, bon, je me suis amusé avec dans le film, j'y suis pas allé de la main morte, c'est-à-dire du sur-symbolisme de tout et n'importe quoi. J'avais envie que tout ait un sursens comme ça, oui, donc le panneau nous dit ce qu'ils ne doivent pas faire et tout ça. Et genre ne pas prendre des courts-circuits, rester sur la bonne route, ne pas se perdre et tout ça. Bon, il y a plein de signes comme ça dans le film et ça m'a énormément amusé. Quelque chose d'assez mauvais goût comme ça, de surcharger tout à un sens. Et à la fin, on ne sait plus quel sens ça a parce qu'il y en a tellement.
À propos de montage, quand on regarde votre biographie, on lit que vous avez suivi une formation de monteur à l'INSAS à Bruxelles. Mmh. En quoi cette formation a pu influencer même votre façon de filmer ?
Il m'a fallu juste beaucoup de temps d'aimer les acteurs, je pensais surtout ça. Je ne sais pas si ça influe la façon de filmer, mais j'adore les acteurs maintenant. Et je pense que c'est Béatrice Dalle ou même avant Alain Libault qui m'ont fait tomber totalement amoureux des acteurs. Mais je me rappelle le premier court-métrage que j'avais fait qui s'appelait Casa Hogar, c'était vraiment un film de monteur. Il y avait un acteur, mais je l'ai filmé de dos, il n'avait pas le droit de bouger. Et ce qui m'intéressait, c'était les plans. Et aujourd'hui, quand je le revois, j'ai de l'affection pour... Mais c'est un beau chemin d'apprendre à aimer les acteurs. Et souvent, je pense, beaucoup de jeunes réalisateurs, je suis plus si jeune, hein, pas d'inquiétude, mais il faut un chemin pour aimer l'acteur. C'est évidemment la chose la plus mystérieuse.
Reda Kadem, vous vouliez intervenir, oui ?
Non, c'était pour rebondir. Mais c'est vrai que j'ai déjà vécu des courts-métrages avec des jeunes réalisateurs en herbe qui s'intéressaient à la mèche de cheveux pendant 3 heures plutôt qu'à la scène qu'on avait. Mais
c'était pas mèche de cheveux, moi. Mais bon, c'est le long chemin. Hein, c'est la chose la plus mystérieuse.
Bien sûr. Non, mais puis,
surtout, vous allez commencer à filmer. Vous allez être un jeune réalisateur.
Oui, vous allez vous occuper de la mèche de cheveux.
Exactement. Enfin, du coup, je serai plus à l'épaule qu'en mèche de cheveux. Mais je dis pas du tout. Enfin, oui, c'est une plongée. Dans l'inconnu, ça. C'est...
Vous voulez filmer à l'épaule ?
Beaucoup à l'épaule, ouais. Une belle partie à l'épaule, ouais.
Vous filmez ou vous êtes derrière Vous filmez vous
Non,
vous
non, avez... non. J'ai mon chef-op fait les plans. Mais épaule, oui, j'y arrive pas, non. C'est très, très fixe chez moi. Je filme pas à l'épaule. Parce que je crois que j'arrive pas à poursuivre les gens. C'est comme si... J'aime bien comme si un contrat tacite avec ceux qui sont filmés en documentaire ou même en fiction, c'est-à-dire un cadre, et vous pouvez en sortir peut-être. Et peut-être ils n'en sortent pas, hein, mais ils restent là. Mais cette liberté en fait. Et l'épaule m'a toujours, pour moi, hein, semblé à quelque chose de... On cherche comme ça.
Pourquoi vous voulez filmer à l'épaule, Reda Kateb, pour votre premier court-métrage ?
Parce qu'il y aura beaucoup d'enfants, que j'ai envie que du coup le rythme de la caméra soit à celui des enfants. Parce que je le ferai avec un cadreur avec qui j'ai déjà joué, avec qui on a déjà tourné 2 fois et avec lequel on sait danser ensemble. Comme je réaliserai, je jouerai aussi. J'ai envie de quelqu'un avec qui on se comprend sur des impulsions physiques, des choses. Voilà, pour jouer, moi j'adore l'épaule en fait. Ça permet justement de danser un peu avec une caméra sur pattes. Je pense que tout le monde aimerait bien de temps en temps être payé à péter un pare-brise dans une journée.
Même Romer.
Merci à nos invités. Reda Kateb, on vous retrouve dans Hippocrate de Thomas Litt-Li. Même pas du tout. Litt-Li. Sorti en salle aujourd'hui. Même chose pour votre film Patrick Chia, Boys Like Us. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Bon réveil, bonne journée sur France Info. Il est 6h.
Demain, il sera 19h de l'information avec le nouveau directeur de France Info, Laurent Guimier. À ses côtés, le romancier Aurélien Bélanger. Des annonces, Hippolyte ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Comeau, Benoît Lagan, Jean-Marc Lalanne, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilote. Journal de la culture, Zoé Sfez. À la technique, Élise Leu, Jacques Azubert. À la réalisation, Thomas Beau. Vous pouvez télécharger, réécouter, podcaster, commenter cette émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.